C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Alors aujourd'hui, je vous emmène dans la forêt tropicale, l'écosystème le plus riche de la planète. La pluie, la lumière du soleil, les grands arbres, la végétation et la faune en liberté travaillent tous en harmonie pour créer la forêt tropicale la plus prospère qui soit. Cette canopée constitue un habitat riche de biodiversité et de productivité biologique. Mais méfiez-vous des menaces, la sécheresse, les incendies et les maladies pourraient détruire vos efforts en une fraction de seconde. Canopée est un jeu de joueurs de Tim Eisner avec pour les illustrations Vincent Dutray. Canopée est localisé en France par les Lucky Duck Games et qui vient juste de sortir. Et ce qu'on remarque tout de suite, c'est que le thème écologique du jeu est repris aussi dans la boîte. Pas un seul bout de plastique. Les cartes sont entourées d'un ruban papier. Mais le plus surprenant, c'est que les sacs pour mettre les jetons, eh bien, ils sont aussi en papier. Les deux joueurs s'affronteront pour former la meilleure forêt tropicale et la plus abondante. Les arbres, les plantes et les animaux devront s'équilibrer correctement pour marquer le plus de points pour votre écosystème. Alors le jeu se joue en 3 tours sur 3 saisons, avec un scoring à chaque fin de saison, plus un 1 au final. On aura aussi un des bonus, notamment pour la plus grande forêt. Canopée utilise une mécanique de tirage de cartes et de collection d'ensemble. Il y a aussi un élément de chance au moment de décider dans quelle pile prendre les cartes forcément. Mais alors comment on joue ? Ben, à votre tour, vous allez ramasser ou examiner d'abord chacun des nouveaux tas de croissance un par un dans l'ordre de 1 à 3. Si vous ramassez un tas et que vous aimez ce que vous voyez, bah vous êtes libre de le prendre. Si vous choisissez de ne pas le prendre, vous pouvez reposer les cartes et passer à la pile croissance suivante. Mais avant de le faire, vous devez ajouter une nouvelle carte à la pile de croissance du paquet de la saison en cours. Cela va peut-être rendre ce tas de croissance que vous venez de laisser un plus intéressant pour le prochain joueur. Soyez très prudent. La prochaine pile que vous regarderez peut être pire et vous allez devoir prendre quelque chose. Si vous devez vous frayer un chemin en examinant les 3 nouvelles piles de croissance sans choisir de prendre l'une des piles, vous devez alors prendre la carte du dessus du paquet de la saison en cours face cachée. Elle viendra donc compléter votre tableau. Alors justement, si vous prenez une pile, vous devez prendre toutes les cartes et les ajouter à votre tableau devant vous. Parmi les cartes qu'on va retrouver, il y a les cartes troncs et canopées pour construire vos arbres. Il y en a vraiment besoin dans une forêt. Des cartes de plantes qui vont vous rapporter des points en fonction de votre nombre de plantes. Certaines ne donnent que des points pour les nombres impairs, d'autres si vous avez que 2 et ainsi de suite. On a aussi les cartes animaux qui donnent, elles, des points bonus pour les couples. Là, il y aura aussi des capacités spéciales. Il y a les cartes météo qui vont donner des points pour chaque paire de soleil avec de la pluie. Des cartes graines qui vous permettent de piocher dans le paquet graines après chaque saison. Le deck de graines contient que des bonnes cartes car il est pratique pour compléter notamment un arbre avec une canopée ou pour compléter une paire soleil plus pluie. Mais il y a aussi des cartes menaces. Alors là, c'est moins cool sous forme d'incendie, de maladie, de sécheresse, qui vous feront défausser d'autres cartes. Alors les cartes ajoutées à votre forêt personnelle auront des effets immédiats en cours de saison ou en fin de saison. Les cartes à effet immédiat sont résolues pendant le tour, où vous les ajoutez comme une carte sécheresse qui vous fera malheureusement perdre immédiatement des cartes. Une fois que tout est marqué, toutes les cartes sont défaussées à l'exception des arbres et de la faune. Ensuite, la saison suivante commence de la même manière. À la fin de la saison 3, tous les scores normaux se produisent avec le score de la faune. Plus il y a d'arbres et d'animaux sauvages dans votre forêt, mieux c'est. Canopée est très bien conçu, c'est rapide à apprendre, rapide à jouer, un jeu de cartes compétitif pour deux joueurs. J'adore aussi le thème de la forêt tropicale, c'est un thème que l'on voit rarement dans les jeux de société. Et que dire de l'art de Vincent Dutray qui sublime le jeu en donnant vie aux cartes.
C'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Et c'est l'heure de jouer aujourd'hui avec Vianney. On approche de Noël, donc forcément, c'est le moment des tops. Bonjour Vianney.
Salut Mathieu, salut à toutes et tous.
Ça va bien ?
Ouais, ça va, on va faire un super top, ça va être le top.
Le top, et on va parler plutôt jeu famille, et pas ambiance, t'as raison, on va le garder pour le réveillon.
Ouais, ça va être un peu mieux de garder ces petits jeux-là qui vont réveiller un peu toute la famille et tous les amis aussi pour les réveillons de fin d'année, pour que ce soit plus proche des réveillons et qu'on puisse dire « Ah ouais, c'est ça que j'ai envie de jouer au moment des réveillons ».
Alors, tu as choisi 3, ça a dû être difficile d'en choisir 3, non ?
Ouais, alors après, je me suis mis une petite contrainte, je parle que de jeux qui sont sortis dans l'année, parce que sinon oui. C'est toujours trop dur de faire un top sur les jeux qui pourraient intéresser des familles, enfin voilà, nous... il y a plus de 2500 ou 3000 références encore de jeux, donc bon, c'est compliqué. Par contre, sur cette année, ouais, il y a trois jeux qui nous ont beaucoup marqués dans l'équipe. Je crois que c'est global chez nous à Terre de Jeux Arène.
D'accord.
On va commencer par le premier dont tu as déjà parlé à l'antenne, je crois, un jeu de Mathieu Potdevin qui s'appelle L'Empire de César.
Ah, L'Empire de César, oui, bien sûr.
Pour nous, c'est vraiment excellent. C'est un jeu qu'on recommande vraiment à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude des jeux de société. Alors bon, quelqu'un qui sort juste du Uno, c'est un peu compliqué. Faudrait avoir une petite étape entre les deux. Et encore que, je suis d'accord, mais bon, moi je lui conseillerais quand même peut-être une petite étape avant. Mais quelqu'un qui a juste, voilà, un peu de jeu dans sa vie, qui a vu de loin des jeux de société, que ça l'intéresserait de s'y mettre, c'est tout à fait jouable. Le jeu a des règles excessivement simples. Il se joue entre 2 et 5 joueurs et il a une configuration à 2 joueurs qui est absolument excellente, qui est assez rare sur les jeux familiaux pour être signalé. Moi, je le trouve vraiment très bon. Sa petite subtilité par rapport à beaucoup de jeux familiales, c'est qu'il est sans hasard. C'est pas un jeu où on va avoir de l'aléa. Les joueurs vont vraiment être concentrés sur une stratégie et on va du coup développer cette stratégie au fil du temps. Ce qui va venir mettre des bâtons dans les roues de tout le monde, ce sont évidemment les autres joueurs et les coups joués par les autres joueurs.
Mais oui.
Qui vont pouvoir un petit peu bouleverser nos plans, bien évidemment. Donc à deux, on est vraiment sur un jeu de ping-pong stratégique qui peut faire penser à beaucoup de jeux abstraits type jeu de dames, jeu d'échecs, où on est vraiment concentré sur comment prendre l'ascendant sur son adversaire en réfléchissant plusieurs coups à l'avance. Et à 5, c'est un jeu où, en général, toi et moi, Mathieu, on va faire une alliance contre un troisième larron,
ouais,
troisième larronne, parce qu'on trouve qu'elle est un peu devant et qu'on n'aime pas trop sa tête à ce moment-là. Et puis toi, après, tu vas me mettre un petit coup de poignard dans le dos. Dans ce jeu-là, en fait, on essaye de, en gros, prendre le contrôle de différentes villes. On incarne l'Empire de César dans l'univers d'Astérix et Obélix. Et on va poser des légions qui vont venir nous permettre de contrôler des villes. C'est un système de réseau, en fait, où les légions connectées vont nous permettre d'aller de plus en plus loin de Rome. Et évidemment, plus on va loin de Rome, plus les récompenses peuvent peut-être être plus intéressantes. Et c'est surtout que le jeu est basé là-dessus. Les légions que l'on utilise pour faire nos routes vont nous rapporter des points, mais on peut également utiliser celles des autres pour aller plus loin ou à un endroit qui nous intéresserait. Sauf que du coup, on donne des points à nos adversaires.
C'est
très intelligent.
Ouais, et puis avec ce système de récompenses, plus t'en as, plus tu marques de points. Mais si t'en as différentes aussi catégories, par exemple, si t'as du raisin, t'as des... Alors, je sais plus ce qu'il y a,
Il y a des ressources
des
différentes,
olives,
qui sont effectivement des denrées un peu symboliques de la richesse de Rome dans les Astérix et Obélix.
C'est ça, ouais.
Donc l'or, des jarres, du raisin, des trucs comme ça. Et effectivement, ça fait partie des moyens de marquer des points dans le jeu, de collectionner toutes ces denrées.
C'est vraiment bien fait. Alors au début, quand j'ai vu, ça m'a fait penser un peu aux aventuriers du rail.
Oui, il y a un petit côté, l'aspect réseau comme ça, de légions qui se connectent pour aller d'une ville à une autre et la posséder. Forcément, je pense qu'on pense tous aux aventuriers du rail. Qui plus est, cette légion est en plastique, donc fait forcément penser au train plastique des aventuriers du rail. Enfin, il y a un côté, c'est une forme allongée, rectiligne. Ça fait forcément penser à ça. Mais en fait, en termes de sensation de jeu, c'est vraiment bien différent.
Ah oui, totalement, ouais.
Les Aventuriers du Rail, ça reste un jeu que moi je trouve très agréable par son côté hasardeux et prise de risque. Est-ce que je prends ces cartes-là? Est-ce que je joue là? Est-ce que je vais là? Ah mince, je me suis fait griller par l'autre qui a pris ma route. Mais on est sur un côté où il y a beaucoup de hasard, justement pour permettre aussi aux enfants de s'en sortir. Là, il y a un côté beaucoup plus stratégique. Donc c'est les premières approches de la réflexion stratégique, on les a dans ce jeu. Et après, de toute façon, les paramètres sont trop compliqués à appréhender pour faire un jeu d'un quelqu'un qui pourrait tout brainer et tout réfléchir à l'avance. Il y a trop d'éléments pour que ça puisse être computable et du coup, ça en fait un jeu vraiment familial, quoi.
Donc, c'est l'un des jeux que tu conseilles de cette année, qui vient tout juste de sortir. Il y a quoi? Il y a un mois à peu près?
Ouais, c'est ça. Je dirais même peut-être moins, mais oui, c'est ça.
Et il se vend comment alors au magasin?
Ça part bien, mais après, c'est toujours pareil. Nous, quand on est assez enthousiaste sur qui plus est sur un public aussi large, c'est-à-dire qui s'adresse à des gens qui ne sont pas forcément des joueurs. C'est vrai qu'on a tendance à le conseiller et à le recommander, et là on a la chance d'avoir des gens qui nous suivent et qui écoutent nos conseils et qui sont plutôt friands de nos retours. Donc forcément ils nous font confiance. Pour l'instant ça part plutôt bien. Ce qu'on espère, c'est qu'on se trompe pas et que ça plaira à tous ces gens là évidemment.
En deuxième,
je voulais parler d'un jeu de Phil Vizcarro et Amin Ramani.
Oh, ça me dit quelque chose, ça.
Petit quiz.
Pas vu, pas pris.
C'est un jeu... Ouais, bravo, bien joué. T'as vu Paprika qui a été un gros coup de cœur par chez nous aussi, qui est très original. Ouais. Moi, je le compare dans les années précédentes qu'on a vu dans le monde du jeu à des jeux comme Ghost Adventure ou Looney Quest,
ouais,
qui sont des jeux où, en fait, t'as l'impression de jamais avoir vu ça, alors que c'est des idées, tout ce qu'il y a de plus idiote, entre guillemets, de game design. T'as vu Paprika, l'idée est très simpliste. On joue des petits fantômes, on va essayer de les faire traverser le plateau de jeu. Et en fait, sur ce plateau de jeu, il y a plein de petits éléments 3D, des meubles qui sont disposés. À la fin d'un tour de jeu, quand tout le monde a déplacé ses petits fantômes et qui sont donc plus ou moins au centre du plateau, les joueurs vont pouvoir bouger leurs fantômes un peu comme ils veulent au sein de leur case, qui est assez grande,
ouais,
et essayer de les dissimuler, de les cacher derrière les meubles. Parce qu'en fait, c'est un jeu de cache-cache,
ouais,
où à la fin d'un tour de jeu, un joueur va glisser son œil par une serrure qui sera sur le côté du plateau, et tous les fantômes qu'il verra à l'intérieur de cette serrure devront repartir à zéro. Un peu comme un 2-3 soleil, si tu bouges, quoi, tu bouges, bah, tu dégages, tu vas au poulailler.
C'est
quoi.
Ça.
C'est un peu la même idée. Et en fait, c'est très amusant de voir ça sur un plateau. C'est grisant, on essaye de les cacher. Des fois, ça se passe mal parce qu'il y a plein de hasards, il y a des rebondissements. On a des petites cachettes qui ont été faites, c'est très bien édité. Le matériel de jeu permet de vraiment bien dissimuler ces fantômes en les plaçant dans un passe-plat ou en les dissimulant sous le piano ou des choses comme ça.
C'est super bien fait.
Ah ouais, c'est génial. Et je trouve que l'univers est immersif. Tu te crois vraiment dans cette espèce d'hôtel à la Ghostbusters, ou ouais, un peu chelou, ou à Casper, le vieux film là que moi j'avais vu quand j'étais gamin. Je suis vraiment plongé dans l'univers à chaque fois que je joue. Et c'est super à partager. C'est des fous rires avec les gamins. C'est des trucs de « Oh non, t'as vu mon fantôme, j'allais trop bien caché alors qu'il allait arriver. » Enfin, c'est super bien. Donc foncez-y, c'est excellent. Et là, pour le coup... Moi, je dis plus on est fou, plus on rit. Normalement, ça joue de 2 à 4, mais évidemment, ouais, voilà, à 4 joueurs, ce sera mieux qu'à 3, et à 3, ce sera mieux qu'à 2.
C'est sûr. Et puis,
c'est beaucoup plus amusant de
jouer. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que bah, tu regardes dans la serrure, là, et puis il y en a qui sont de mauvaise foi, quoi. Ils disent « Ah, ben, je le vois, je le vois. Ben, t'es sûr? Attends, je vais me mettre devant. Ah, ben, moi, je le vois pas.
» Ouais, ouais, ça, c'est très drôle. J'avoue que c'est le truc très marrant aussi. C'est les petites prises de tête du « Est-ce que tu vois le bout du bout du bout du bout du fantôme ?» Ouais, c'est très drôle. Je trouve que ça fait partie du jeu.
Donc, pas vu, pas pris. Donc, c'est aussi un jeu qui vient tout juste de sortir dans ta sélection, finalement, de 2021.
Ouais, carrément. Et c'était deux jeux que... Enfin, c'était un jeu qu'on avait beaucoup, beaucoup aimé au moment du Salon de Vichy, qui faisait partie des deux jeux qu'on avait remarqué en septembre et qu'on avait trouvé ça très bien déjà à ce moment-là.
Et le dernier,
je pense que tu sais déjà qu'est-ce que c'est, parce que
je pense
j'ai
trouvé
un peu de tout le monde avec ça cette année, parce que j'ai trouvé ça très bien. C'est un jeu de Airu et Toshiki Sato.
Happy City.
Ouais, Happy City, évidemment. Je
Alors, faire tu un sais
top
quoi, Vianney
sans ça.
On en a parlé hier parce que Morgan a fait aussi un top et il est aussi dans son top. Il est aussi dans le mien. Donc, Happy City, je te laisse dire tout le bien de ce que tu penses de ce jeu.
On va pas en rajouter une couche 500 fois, mais c'est vrai que pour moi, ça fait partie des très grands jeux de société de cette année et des dernières années pour jouer en famille autour d'un jeu pas cher, simple d'accès, avec un vrai plaisir de petite ville toute mignonne qu'on va développer pour essayer d'avoir donc des bâtiments qui vont rendre heureux nos habitants, avoir le plus d'habitants possible. C'est très bien fait, les règles sont limpides, le jeu est d'une simplicité folle pour un jeu du genre. C'est une première initiation et une première approche des jeux de gestion beaucoup plus poussée, donc c'est chouette aussi parce que ça permet de découvrir un pan de la culture ludique qui souvent est réservé à des gens qui ont plus l'habitude des jeux de société parce que les règles sont souvent complexes. Là, on est sur un jeu très très simple qui permet vraiment de découvrir ça en douceur. Pour ma part, c'est vraiment un cadeau dans le genre. Je pense que ça va s'installer comme une valeur sûre dans les années à venir. À ce prix-là, et aussi bon de 2 à 5 joueurs, c'est inchallengeable. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés là-dessus. Normalement, si le pitch vous tente de fabriquer votre petite ville avec des jolis bâtiments, des jolis petits habitants très heureux, ça devrait marcher.
Mm-hmm. En tout cas, Happy City, c'est ton gros coup de cœur de cette année, on peut le dire.
Ouais, moi je trouve ça... Alors, c'est toujours pareil, hein. À titre personnel, c'est toujours assez amusant. Moi, c'est pas des jeux auxquels je joue beaucoup. Je suis client d'autres jeux. Par contre, moi, dans mon travail et ma passion, c'est de véhiculer qu'est-ce qu'un jeu de société de qualité et pourquoi et qu'est-ce que j'ai envie que les gens y jouent, qu'est-ce qui montre aujourd'hui la richesse du jeu de société. Et je trouve qu'Happy City, à ce titre-là, c'est une petite merveille.
Bah merci beaucoup Vianney, on se retrouve jeudi prochain pour un autre top.
Ouais, à la semaine prochaine.
Salut Vianney.